Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons le privilège de t'appartenir. Et ce matin, c'est vrai, c'est pas une routine de choses, c'est pas une habitude, mais c'est avec une très grande reconnaissance que nous sommes à ta présence. Nous reconnaissons que nous sommes privilégiés de pouvoir être devant ta face pour t'adorer, t'honorer, exalter ton nom, pour reconnaître toutes les choses de bien que tu fais envers ton peuple. Et nous voulons te louer ce matin. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Merci qu'un Dieu si haut, si grand, un Dieu tout-puissant, puisse avoir une communion avec ses créatures. Et nous te remercions. Tu es vivant. Tu as une vraie relation avec nous. Et tu as montré cet amour en te humiliant dans l'incarnation de Jésus-Christ. Nous te remercions car Jésus-Christ a quitté la gloire, a quitté la relation et de privilège qu'il y avait au ciel avec toi pour descendre sur la terre, être avec nous, vivre avec nous, être semblable à nous dans toutes choses, à l'exception du péché. Nous te remercions pour ce grand privilège que nous avons encore ce matin de pouvoir nous approcher de toi à travers l'œuvre et le sacrifice de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas du tout parfaits par nous-mêmes, mais nous pouvons l'être par la foi en Jésus-Christ. Et si aujourd'hui nous pouvons rester devant ta présence, à tes yeux parfaits, c'est seulement grâce au sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et grâce à cette œuvre, tu nous vois parfaites. Tu vois parfait ton peuple, parce que le médiateur, Jésus-Christ homme, est entre nous et toi, ô Père. Et Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce matin, nous nous approchons de toi, pas seulement pour te louer, pour t'adorer, mais aussi pour te demander pardon de nos péchés. De plusieurs façons, d'une manière différente, chacun de nous, sûrement cette semaine, nous t'avons offensé. Et c'est pour cela que nous nous approchons avec un cœur humble, humilié devant toi, pour te demander pardon. Et à la fois, nous nous approchons avec la foi que tu vas nous pardonner. Que le sang de Jésus-Christ va être puissant de nous purifier de tout péché. Quel privilège, encore une fois. Et nous te disons merci de tout notre cœur. Ô Dieu, notre Père, nous aimerions aussi te prier pour la prédication de ta parole. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin que cette parole puisse éclairer nos cœurs, nos esprits, ouvrir nos yeux, afin que nous puissions regarder le chemin qui conduit à toi. Le chemin par lequel il faut marcher pour honorer et glorifier ton nom. Le chemin qu'il faut emprunter pour l'avancement de ton royaume. Le chemin qu'il faut emprunter pour la communion fraternelle, pour les exhortations communes. Merci d'instruire ton Église, pas seulement ici chez nous, Seigneur, mais là, partout dans cette terre où ta parole est prêchée avec fidélité. Nous te prions afin que tes serviteurs puissent être loin de ton esprit, que ton esprit puisse souffler dans ton assemblée, que les cœurs puissent être vivifiés par ton esprit, que les cœurs de ceux qui sont morts encore dans le péché, dans la désobéissance, dans la rébellion, puissent être vivifiés et portés à la vie par ton esprit. Nous te supplions, agis encore aujourd'hui, dans ce siècle où les gens sont détournés de toi, ils sont loin de toi, ils sont rebelles à ta loi, qu'ils connaissent. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, agis puissamment. Et encore merci, aujourd'hui encore, nous allons prendre du pain, du vin, symbole d'une nouvelle alliance. Tu as toujours agi avec des alliances avec ton peuple, et encore avec nous, ton Église, ton peuple, l'épouse de ton Fils, tu agis encore avec une nouvelle alliance, que nous voulons nous approcher avec reconnaissance, avec crainte. Merci de bénir ce culte ce matin, du début à la fin. Nous te supplions pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors c'est un culte particulier que nous allons vivre ce matin, particulier dans ce sens que c'est un moment de joie, pour notre Église, mais c'est aussi un moment de joie pour deux familles de notre Église, la famille Lavigne et la famille Chopard. Pour quelle raison ? Eh bien parce que nous allons procéder ce matin à la présentation de leurs enfants, enfin pas de tous leurs enfants, parce qu'il y en a qui ont déjà été présentés au Seigneur, mais nous allons procéder ce matin à la présentation de William Lavigne et à la présentation de Josias Chopard. Alors avant de procéder à cette présentation, eh bien j'aimerais au préalable, et comme on le fait à chaque fois pour se souvenir de ce qu'est une présentation, introduire ce moment en vous rappelant ce qu'est une présentation d'enfant. Mais avant, je vais vous dire, peut-être pour qu'il n'y ait pas de confusion dans votre pensée, ce qu'elle n'est pas, mais surtout je vais vous dire ce qu'elle est. Parce que c'est très bien de voir par la négative, mais c'est surtout encore mieux de voir donc ce qu'est une chose par la positive. Alors, ce que n'est pas une présentation, il ne s'agit pas d'un sacrement ou d'une ordonnance, comme le baptême ou la Sainte Cène, qui sont les ordonnances que le Seigneur a laissées à son Église. Et s'il ne s'agit pas d'un baptême, il ne s'agit pas, concernant cette présentation, d'une sorte de baptême sec. Pourquoi ? Parce que le baptême est le signe visible d'une transformation intérieure invisible qui est opérée par le Saint-Esprit. Alors si c'est le signe visible d'une transformation invisible, cela signifie qu'il faut qu'il y ait transformation de l'âme, qu'il y ait repentance, qu'il y ait foi. Et pour un enfant de l'âge de Josias et de William, eh bien, on ne peut pas dire qu'ils soient encore passés par une conviction de péché, qu'ils aient mis leur foi en Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas encore compris le message de l'Évangile, parce que leur conscience n'est pas encore formée. Ce n'est pas non plus une sorte de consécration. Nous ne sommes pas aujourd'hui, avec la famille Chopin, avec la famille Lavigne, comme Anne à l'époque, qui avait consacré son fils Samuel à l'Éternel. Même si je suis convaincu que ce soit Stéphane et Lynn ou encore Laurent et Elaine, eh bien, ces deux familles aimeraient bien que leurs enfants, Josias, William, soient consacrés à l'Éternel pleinement pendant toute leur vie. Mais il ne s'agit pas de cela. Alors, de quoi s'agit-il quant à la présentation ? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais lire deux textes bibliques qui vont nous aider à comprendre ce qu'est une présentation. Tout d'abord, en Exode 20, les versets 5 et 6. « Moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Premier texte d'Exode 20. Promesse, tout d'abord, de malédiction pour ceux qui haïssent l'Éternel, mais surtout promesse de bénédiction pour ceux qui l'aiment et pour les générations qui vont suivre, pour leur descendance. Deuxième verset, ou deuxième texte, en 1 Corinthiens 7, les versets 13 et 14. Si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Alors selon ces deux textes que je viens de lire dans l'Exode et dans l'Épître aux Corinthiens, la première, eh bien nous comprenons qu'une bénédiction particulière de Dieu repose sur les enfants de ceux qui sont d'authentiques croyants, sur les enfants de ceux qui font partie, comme il a été fait allusion dans la prière de Fabio tout à l'heure, du peuple de l'Alliance de grâce, de ce peuple avec qui Dieu a fait alliance en Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce que souligne tout spécialement le texte de 1 Corinthiens 7, qui affirme que lorsque l'un des parents est chrétien, eh bien les enfants sont saints. Dans ce sens que ces enfants jouissent réellement d'une bénédiction spirituelle. C'est dans ce sens que nous devons comprendre ce terme. Dieu se plaît à bénir les enfants de famille chrétienne. Comment ? Par divers moyens. Tels que la parole de Dieu, qui est prêchée dans l'Église, mais qui est surtout enseignée dans le cadre familial. Les parents et l'exemple qu'ils donnent et qu'ils doivent donner dans la famille, eh bien, c'est un moyen de bénédiction que Dieu se plaît à utiliser pour ses enfants. L'éducation chrétienne que donnent les parents, bien entendu, mais aussi l'Église, dans laquelle nous nous trouvons, petite Église, c'est vrai, mais Église néanmoins, qui est là, qui est comme un cadre aussi que Dieu donne également à ses enfants, et dans le cadre de l'Église, les relations fraternelles. Alors il y a une chose que nous devons néanmoins dire, c'est qu'il nous est impossible d'affirmer que William, que Josias, ou que n'importe quel petit enfant de notre Église, même présenté à Dieu, eh bien, sera forcément régénéré et sauvé un jour. Pourquoi ? Parce que le salut dépend de l'appel de Dieu, qui choisit qui il veut, et ne dépend en aucune façon de l'ascendance familiale des enfants. Ce n'est pas parce que les parents de ces enfants sont chrétiens que leurs enfants seront forcément chrétiens. Par contre, ils ont un cadre propice justement à entendre l'Évangile, à connaître Dieu et à passer par la repentance et par la foi. Ainsi, chers frères et sœurs, eh bien, c'est parce que nous croyons que cette bénédiction réelle sur la descendance des croyants existe que nous pratiquons la présentation d'enfants et que nous allons pratiquer ce matin cette présentation d'enfants. Avant d'appeler les deux familles, la famille Lavigne, la famille Chopard, et les deux frères qui prieront pour ces enfants, j'aimerais vous rappeler ceci. La présentation d'enfants est une cérémonie au cours de laquelle nous invoquons Dieu par la prière et en Église. C'est pour ça que nous le faisons ce matin. Invocation de Dieu en Église durant laquelle nous remettons à Dieu tout particulièrement un enfant de famille chrétienne afin que Dieu lui accorde sa bénédiction et qu'il l'appelle à lui s'il le veut en son temps. Mais ce n'est pas simplement une invocation de Dieu, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi pour les parents un geste d'engagement de leur part. Laurent, Elaine, Stéphane et Lynn reconnaissent ce matin publiquement que cet enfant leur a été confié par Dieu pour un temps et qu'ils ont la responsabilité de l'éduquer selon Dieu et de l'amener à l'Église qui est le lieu par excellence où l'Esprit de Dieu agit. C'est une reconnaissance de leur part. Mais ce n'est pas encore que ça. C'est non seulement invoquer Dieu, non seulement une reconnaissance de la part des parents, mais aussi, puisque cette cérémonie est accomplie en assemblée devant Dieu, c'est aussi pour l'Église l'occasion de se rappeler qu'elle a une responsabilité spirituelle vis-à-vis de ses enfants. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de Josias, vis-à-vis de William, vis-à-vis de tous les enfants de cette Église, mais aussi vis-à-vis des parents. Et la responsabilité, entre autres, de prier pour ses enfants, pour ses parents. C'est une responsabilité d'ensemble. Que nous ayons des enfants, que nous n'en ayons pas, que nous n'en ayons plus, ou que nous en ayons encore, mais peut-être loin du nid, voilà la responsabilité en Église qui est la nôtre. Maintenant que je vous ai présenté courtement ce que n'est pas, mais surtout ce qu'est une présentation d'enfants, eh bien, je vais demander aux deux familles, je vais demander aux familles Chopard et Lavigne, ainsi qu'à messieurs Rickenbacher et Julesin de bien vouloir me rejoindre maintenant ici sur l'estrade. Alors on va commencer par la famille Lavigne. Alors avant que nous prions pour William, Laurent et Elaine, j'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous dire que c'est confiant dans la fidélité de Dieu, c'est confiant à ses promesses envers vous et envers votre famille, Matthew, Jody et William particulièrement ce matin, que nous nous joignons à vous, que nous allons implorer l'Éternel afin qu'il répande sa bénédiction sur William. Je le répète, cette cérémonie de présentation, et vous le savez fort bien l'un et l'autre, ne fait pas de William un chrétien, car c'est la seule grâce régénératrice de Dieu qui peut le transformer et l'appeler à la foi et au salut. Mais cette présentation démontre, devant notre Église, ici, que toute votre famille et que votre descendance est bénie à cause de la grâce salvatrice de Dieu à votre égard, à toi Laurent et à toi Hélène. Et je vais maintenant demander à Bertrand Rickenbacher de bien vouloir prier pour William.
Ah oui, Éternel, notre Dieu et notre Père, nous sommes dans la joie ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir être rassemblés en Église et dans la joie de pouvoir te remettre tout particulièrement ce petit William. Seigneur, merci de l'avoir confié au Lavigne, merci de l'avoir confié aussi à notre Église. Seigneur, tu vois que c'est une grâce, tu vois que les enfants sont une grâce, ce sont une bénédiction qui vient de toi. Seigneur, notre cœur est donc reconnaissant, plein d'adoration pour ce petit enfant et nous sommes heureux ce matin de pouvoir te le remettre tout particulièrement, de pouvoir te le remettre en Église afin que vraiment tu le bénisses, que tu lui fasses du bien en toutes choses, que tu mettes ta bonne main sur lui, que tu l'aides à bien grandir, physiquement, moralement, intellectuellement, spirituellement, que vraiment tu puisses le renouveler en toutes choses. Et Seigneur, que tu puisses l'appeler au salut en son temps. Seigneur notre Dieu, nous sommes aussi heureux de pouvoir te remettre la famille Lavigne. Nous te remercions pour cette famille, nous te remercions pour ses frères et sœurs. Te remercions pour tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils nous apportent. Et nous voulons te demander de les bénir et de les fortifier en toutes choses, d'encourager Laurent, d'encourager Elaine dans les tâches qui sont les leurs, dans leurs tâches de parents, de leur donner force, sagesse, douceur, toutes les vertus dont ils ont besoin pour éduquer leurs enfants. Nous te prions aussi pour Matthew, nous te prions pour Jody, en te demandant de leur faire du bien également. Ah oui, Seigneur, nous te remercions parce que si nous venons devant toi, c'est les mains vides. Mais Seigneur, c'est en nous reposant sur les promesses de ta parole. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous savons que tu es un Dieu véridique, nous savons que tu es un Dieu fidèle, nous savons que tu veux bénir tes enfants. Et Seigneur, c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de toi avec une pleine et entière confiance, en sachant que non seulement tu nous entends, mais que tu nous écoutes et que tu agis même au-delà de tout ce que nous pouvons te prier. Ah oui, Seigneur, que vraiment tu mettes ta bonne main sur toute cette famille. Au nom de Jésus, amen.
Amen. Éternel notre Dieu, tu sais combien a été un sujet de réjouissance pour notre assemblée la naissance de Matthew il y a quelques années, puis de Jody. Et il y a quelques mois, Éternel, la naissance de William. C'est une réelle grâce que tu as accordée à Laurent et à Elaine et qui a réjoui tous les frères et sœurs de cette assemblée. Nous voici donc réunis ce matin, Père, pour te présenter cet enfant. Et notre prière à tous, notre Dieu, c'est que tu le bénisses. Tu vois combien dans notre cœur nous avons ce désir qu'il devienne un homme selon ton cœur, un homme de Dieu, un homme qui t'aime, proche de toi, qui aime ta parole et qui te servira avec fidélité. Nous ne savons pas, Éternel, quelle sera la vie de cet enfant, mais nous te le confions. Et dans ce sens, nous te confions effectivement ses parents dans toute l'éducation qu'ils devront lui donner. Et tu vois, Éternel, que leur désir, c'est de l'éduquer selon ta volonté. Ô Père, que ta grâce et ta bénédiction soient sur ses parents, Laurent et Elaine. Que ta grâce et ta bénédiction repose sur cet enfant que nous te confions de tout notre cœur. William, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne sa paix. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant à la présentation de Josias. Et j'aimerais, comme je l'ai fait précédemment avec les Lavigne, dire un petit mot aux parents, à Stéphane et Aline, et leur rappeler à eux aussi que Dieu est fidèle. Et selon les promesses auxquelles nous avons fait référence tout à l'heure, dans ces textes que j'ai lus, eh bien, nous savons et nous avons confiance que Dieu prendra soin de Josias. Et nous nous joignons donc à vous ce matin afin de lui demander qu'il répande pleinement sa bénédiction sur votre fils. Alors souvenez-vous de quelque chose, Stéphane et Lynn, c'est lorsque vous le nourrirez, lorsque vous l'enseignerez, lorsque vous l'éduquerez, lorsque vous accomplirez toutes vos tâches parentales envers lui, eh bien souvenez-vous dans tous ces domaines-là, et même dans les moments les plus difficiles, Lynn, parce que c'est toi qui l'auras sûrement pendant encore quelques années à la maison, eh bien souvenez-vous qu'il est précieux aux yeux de Dieu et apportez-le par la prière à l'Éternel, afin que notre Dieu, dans sa grâce, s'il le veut bien, l'appelle à lui comme son enfant en son temps. Je vais demander maintenant au pasteur Espérance Julcin de bien vouloir prier pour Josias.
Nous prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est dans la joie et dans la reconnaissance que nous nous présentons devant toi. Nous nous présentons devant toi pour partager la joie, la reconnaissance de Stéphane, de Lynn et de Maëline, pour Josias, ce cadeau précieux que tu as accordé à cette famille. Avec elle, Seigneur, nous voulons tous ensemble implorer ta grâce. Oui, ta grâce, pour que tu reçoives en retour cet enfant comme une offrande de la part de leurs parents. Avec le prophète Isaïe, en cet instant, ses parents t'offrent Josias en te disant, nous voici Seigneur, nous et cet enfant que tu nous as donné. Oui, avec Lynn et Stéphane, l'Église implore ta grâce pour qu'en tant que parents, ils puisent en toi les ressources spirituelles nécessaires pour pouvoir s'acquitter de leur vocation d'enseigner Maëline et Josias dans la connaissance du Seigneur. Ô notre Dieu, veuille assister les parents chaque jour dans cette tâche exaltante, mais ô combien difficile, dans une société qui te rejette et qui méprise ta loi. Nous te supplions, notre Dieu, fais naître dès maintenant au cœur de Josias, mais aussi de Maëline, des dispositions favorables pour qu'ils accueillent la semence divine qu'ils recevront dans la famille et dans l'Église. Enfin, Seigneur Jésus, nous venons à toi pour te demander d'imposer toi-même les mains sur Josias, sur Maëline, pour les bénir. Parce que, Seigneur, tu as daigné accueillir les enfants pour les bénir et leur faire une place dans ton royaume éternel. Bénis tous les enfants de notre Église. Bénis toutes les familles que nous représentons. Bénis-nous tous, les petits et les grands. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Amen.
Amen. Éternel, notre Dieu, il est dit dans ta parole à propos de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, concernant son enfance, qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Et Seigneur éternel, c'est notre prière ce matin pour ce petit Josias. Nous te prions et te supplions afin qu'il connaisse lui aussi cette stature, cette croissance en stature, cette croissance en sagesse, cette croissance en grâce. Nous te le confions, espérant et priant afin que tu lui accordes une grande et longue vie. Nous te le remettons, Éternel, dans sa petite enfance, te demandant que tu mettes ta bonne main sur lui et que tu le gardes, que tu le protèges. Nous te remettons son enfance, son adolescence, Seigneur, son accès à l'âge adulte, si tu le permets, te priant afin que, Éternel, il puisse petit à petit, Seigneur, te connaître, que quand il aura l'âge éternel voulu pour comprendre, Seigneur, son péché, Seigneur, comprendre la justice aussi et comprendre la nécessité de passer par la repentance et par la foi, eh bien que tu lui accordes vraiment cette grâce de devenir ton enfant. Ô notre Dieu, encore une fois, combien il est cher et précieux aux parents de prier pour leurs enfants et d'aspirer éternel à ce qu'ils deviennent tes serviteurs et servantes. Eh bien, c'est notre prière avec Lynn et avec Stéphane. Bénis-les, éternel. Bénis cet enfant. Bénis Maëline, sa grande sœur. Bénis les grands-parents aussi, Seigneur, les grands-parents du côté de Stéphane, du côté de Lynn, qu'ils puissent être eux aussi, Seigneur, par leurs prières, par leurs exemples, vraiment des objets de ta grâce à l'égard de cet enfant. Josias, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne sa paix. Amen. Amen. Alors les deux familles ont désiré que nous chantions un cantique. Chaque famille nous propose un cantique ce matin. Et je vous propose donc les cantiques suivants et nous les chanterons à la suite. Tout d'abord le cantique 243 qui nous est proposé par la famille Lavigne et ensuite le cantique 52 proposé par la famille Chopard. Donc les cantiques 243 et 52.
Ma paix
deuxième cantique, le cantique 52. Donc je rappelle aux enfants qu'ils peuvent rejoindre l'école du dimanche maintenant. Cantique 52. Première épître de Pierre, et nous lirons le texte de la prédication, prédication qui suivra directement, à partir du verset 23 du chapitre 1, 1 Pierre 1, 23, jusqu'à 1 Pierre 2, 3, pardon, 1 Pierre 1, verset 22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetez donc toute méchanceté, toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voici donc le texte de la prédication de ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il y a, dans la vie chrétienne, une vérité essentielle que nous devons garder à l'esprit. C'est que salut et sainteté sont deux réalités absolument inséparables. En effet, si nous avons été rachetés par Dieu en Jésus-Christ, eh bien c'est pour que nous devenions saints. Et je vous rappelle que nous l'avons vu d'ailleurs déjà dans cet épître, au verset 16 du chapitre 1, Pierre écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Et souvenez-vous, toujours en rapport avec ce chapitre 1, que l'apôtre, après nous avoir présenté au début du chapitre bien la grandeur de notre salut, toutes les richesses de notre salut, nous a ensuite, et de façon générale, appelés à la sainteté et à la crainte du Seigneur. Et dans le texte de ce matin, que je viens de lire il y a quelques instants, eh bien, Pierre rentre plus précisément dans les détails pratiques de cet appel à la sainteté. Et c'est ainsi qu'il nous exhorte, en tant que chrétiens, à l'amour fraternel. Voilà une vertu importante, l'amour fraternel. Et à ce propos, bien des chrétiens sont sujets à beaucoup d'illusions donc concernant cet amour fraternel, voire même, parfois, à de l'hypocrisie. Parce que nombreux sont ceux qui, pourvu qu'ils soient régulièrement présents au culte, ou à l'étude biblique, ou à la réunion de prière, ou bien aux deux, à deux, ou bien aux trois, ne se préoccupent pas de la place qu'occupent leurs frères et sœurs dans leur cœur. Alors, ces personnes peuvent parfois donner l'impression d'une grande piété extérieure, et cependant être absolument incapables de se soucier, ou si peu, de savoir, de leurs devoirs, à l'égard de leur famille spirituelle, dont le premier de ces devoirs est celui d'aimer. Et de ce fait, ces gens qui pensent, parce qu'ils sont venus au culte, à la réunion de prière, à l'étude biblique, de ce fait, ces gens ne se préoccupent que fort peu, peut-être des souffrances, des besoins et des joies de ceux que Dieu a pourtant placés là, tout à côté d'eux, dans la famille spirituelle qui est la leur. Pourtant, cette vertu chrétienne, je vous le rappelle, cette vertu de l'amour, les uns pour les autres, est bien celle que notre Sauveur a recommandée à ses disciples. Et il leur a d'ailleurs présenté comme étant la marque distinctive des chrétiens. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le titre de la prédication de ce matin est celui-ci. Soyez saints dans vos rapports fraternels. J'aurai deux points. Aimez vos frères et sœurs, premier point, et rejetez toute méchanceté. Aimez vos frères et sœurs, ce sont les versets 22 à 25. Alors dans ces versets, Pierre va d'abord poser le fondement nécessaire qui permet d'aimer ses frères et sœurs, parce qu'il y a un fondement nécessaire. Si on ne l'a pas, cet amour est impossible. Et dans un deuxième temps, il donne les détails de cet amour qui doit caractériser nos relations les uns envers les autres dans l'Église. Alors quel est le fondement d'abord? Nous allons voir le fondement puis les caractéristiques. Le fondement qui nous permet d'aimer. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, écrit Pierre au début de ce texte, que comprenons-nous? Eh bien nous comprenons que le fondement nécessaire pour pouvoir aimer ses frères et sœurs est en premier lieu le fait d'avoir une âme purifiée. Parce que nous savons, l'Écriture nous l'apprend, que c'est dans le cœur que commence le péché, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, qui vont ensuite donner naissance à des paroles injustes et à de mauvaises actions, nous rendant, par voie de conséquence, incapables d'aimer selon Dieu. Ainsi, je le répète, pour que nous puissions aimer et aimer notre prochain, aimer ceux que Dieu a placés à nos côtés dans son Église, eh bien, il nous est nécessaire d'avoir un cœur pur. Et dans ce sens, l'apôtre au verset 23 révèle comment le cœur peut être purifié. Lorsqu'il écrit « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Que nous rappelle Pierre? Eh bien, il nous rappelle que cette pureté du cœur ne peut venir que par la nouvelle naissance. Que par cette œuvre souveraine de Dieu par laquelle une âme a la vie. Que par cette œuvre de régénération par laquelle il fait passer une âme des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Et cette purification de l'âme, nous dit Pierre, s'effectue efficacement lorsque Dieu, par l'Esprit Saint, par son Esprit, illumine dans cette âme sa parole prêchée, afin, je le répète, de la délivrer des ténèbres dans laquelle elle se trouve. Par sa révélation extraordinaire de sa parole, le Seigneur conduit tout d'abord cette âme à la repentance, au rejet du péché, au renoncement au péché, à être dégoûté de ce péché, comprendre son état de péché et vraiment le rejeter. Et ensuite, et par voie de conséquence, mais deuxième étape, eh bien le Seigneur, en révélant de façon extraordinaire sa parole, en illuminant dans l'âme sa parole prêchée, va ensuite donner la foi au chrétien, enfin celui qui s'est repenti, qui va lui permettre ainsi de se confier pleinement en Jésus-Christ pour être son sauveur. C'est ce que l'on appelle la conversion. La repentance et la foi. Voilà cette obéissance à la vérité dont parle l'apôtre au début de ce passage. Cette obéissance à la vérité qui conduit à la purification de l'âme, l'obéissance de la foi, la régénération qui conduit à la repentance et à la foi. Et ce changement, chers frères et sœurs, est tel que ceux qui étaient autrefois des enfants de rébellion, que ceux qui étaient autrefois des héritiers de la corruption, comme nous le présente l'Écriture, eh bien, deviennent tout à coup et de façon miraculeuse des enfants de Dieu, des héritiers de la grâce. Des enfants de colère deviennent des enfants d'adoption du seul vrai Dieu. Et voilà le grand privilège de celui qui vient de passer des ténèbres à la lumière. Il est devenu par adoption enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est un enfant unique ? Non ! Il a été introduit dès lors dans une nouvelle famille. Et au sein de cette famille, que découvre-t-il ? Il découvre un père bienveillant, Dieu le Père. Il découvre un frère aîné, qui l'accompagne tous les jours, Jésus-Christ, son Sauveur, son Seigneur. Il est scellé du Saint-Esprit. Et il découvre enfin toute une famille qui est composée de nombreux frères et sœurs, d'abord dans l'église locale à laquelle il se joint, ou à laquelle il doit se joindre, et ensuite de nombreux autres frères et sœurs de par le monde. Mes chers frères et sœurs, vous le savez, tout privilège a forcément des responsabilités aussi, ou à un privilège lié des responsabilités, des devoirs. Et le premier devoir, un des plus importants, c'est l'amour qu'il doit prodiguer, que cette personne doit prodiguer dès lors, que ce chrétien doit prodiguer dès lors à l'égard de ses frères et sœurs. Et je vous rappelle solennellement ce matin que concernant l'amour, l'Écriture est claire. Celui-ci doit s'exprimer dans un premier temps, je n'ai pas dit exclusivement, mais je dis bien dans un premier temps, à l'égard des frères et sœurs dans la foi, et dans un deuxième temps seulement, vis-à-vis de ceux du dehors. Paul, quand il écrit aux Galates, dit ainsi, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Voilà donc le fondement de cet amour. Voyons maintenant les caractéristiques de l'amour fraternel. Eh bien, on les découvre au verset 22. Pierre nous dit que ce doit être un amour sincère, un amour ardent et de tout cœur. Ça, c'est selon la traduction de la Colombe. Mais, en regardant les autres traductions, j'ai remarqué que la plupart du temps, il est question de sincérité, donc c'est le même terme, c'est-à-dire un amour sans hypocrisie, mais aussi de pureté et de ferveur. Donc, permettez-moi de réutiliser les termes pureté et ferveur. Mais tout d'abord, un amour sincère. Pierre parle ici d'un amour vrai, sans hypocrisie. Un amour qui se prouve par des actions concrètes. Et comme l'a écrit quelqu'un à propos de cet amour sincère, sans hypocrisie, il faut que le cœur et la main, plutôt que la langue, en soient le garant. Qu'il ne soit jamais un vain bruit de parole qu'on craindrait de voir mis à l'épreuve. Alors soyons clairs, cet amour vrai, cet amour sincère, cet amour sans hypocrisie implique de la part des chrétiens, de la part de chaque chrétien, des engagements concrets. Et tout d'abord, et le moindre d'entre eux, il faut être présent. Non seulement à côté du frère ou de la sœur lors du culte, lors de la réunion de prière, lors de l'étude biblique, bien sûr, mais encore et surtout en dehors des rencontres officielles de l'Église. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, tout simplement, peut-être, se voir pour prier ensemble. S'écrire des courriers, peut-être des mots d'encouragement, c'est une forme de présence. Se téléphoner, nous avons aujourd'hui Internet, s'envoyer des mails pour s'encourager les uns les autres, prendre des nouvelles, et puis bien sûr se visiter. Et quand je parle de visiter, il n'est pas forcément question de mettre les petites assiettes dans les grandes. Ça peut être fait avec tellement de simplicité. la présence, l'écoute attentive également. Cet amour sincère implique nécessairement un intérêt pour l'autre, et non pas simplement une oreille qui entend, mais qui ne fait qu'entendre sans attention, en regardant peut-être parfois dans sa montre pour voir combien de temps encore il reste à entendre ce que l'autre a à nous dire. La disponibilité, elle rejoint un petit peu le point précédent, enfin pas celui de l'écoute attentive, mais celui de la présence. Aimer signifie forcément donner du temps. Et donner du temps signifie forcément renoncer à soi, et peut-être renoncer à son confort. Et puis, mais la liste n'est pas exhaustive, j'ai pensé à l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie, ce terme bizarre ? Eh bien, il s'agit de cette qualité qui permet à quelqu'un de comprendre les sentiments et les émotions de l'autre personne sans forcément les vivre, sans forcément passer par les mêmes circonstances. Parce que des frères et des sœurs sont parfois éprouvés ou parfois heureux, mais nous n'avons pas vécu ou nous ne vivons pas leur souffrance ni leur joie. Mais l'empathie, c'est cette grâce que Dieu peut accorder et accorde qui nous permet de ressentir fortement la souffrance ou la joie du frère ou de la sœur. Voilà donc quelques implications nécessaires pour aimer concrètement son frère ou sa sœur, selon ce que Dieu nous demande à tous. Présence, écoute, disponibilité et empathie. J'aimerais vous en présenter une dernière. Une dernière nécessité pour pouvoir aimer ses frères et sœurs. J'y ai pensé après coup. Et je me suis dit qu'une des nécessités pour pouvoir aimer ses frères et sœurs, c'est aussi accepter l'Église dans laquelle Dieu nous a placés de façon providentielle. Il peut arriver dans notre vie, pour diverses raisons, que l'on soit obligé de se joindre à une Église qui n'est pas peut-être de la même association d'Église que celle dont on faisait partie jusque-là. Et cela m'est arrivé bien des fois, parce que dans ma carrière, début de carrière militaire, il y a des années en arrière, et même depuis que je suis en Suisse, j'ai dû changer bien souvent d'église. On est ainsi confronté à divers changements. Les personnes, bien entendu, les frères et sœurs de l'église. La direction de l'église change. La forme de direction change. La forme du culte change. L'enseignement peut être différent dans sa forme et même parfois dans ce qui est enseigné. Et bien d'autres choses encore peuvent être différentes. Cette nouvelle église a des qualités, mais elle a aussi ses défauts. Elle a ses points forts et elle a ses faiblesses. Et alors, il y a de la part de celui qui rejoint cette église deux possibilités de réaction qui vont forcément influer sur le rapport que la personne qui change d'église a avec les personnes qu'elle côtoie dans cette église. Première réaction possible, mettre les pieds au mur. Pas forcément de façon visible, mais intérieurement. Et ainsi trouver tous les défauts possibles à cette assemblée. Et par voie de conséquence, c'est naturel, tous les défauts possibles aux frères et sœurs qui sont dans cette assemblée. Parce que dans ces cas-là, on fait très rapidement le lien. Alors comment aimer ses frères et sœurs dans ce cas-là? Il s'agit clairement d'un péché. Il s'agit dans ces cas d'un rejet flagrant de la volonté de Dieu pour notre vie. C'est un rejet, je le répète, de la volonté de Dieu pour notre vie. Quand on s'oppose à cette Église, quand on méprise les frères et sœurs qui y vivent leur foi, c'est finalement à qui que l'on s'oppose ? À Dieu ! C'est lui que l'on méprise, derrière cette Église et ses frères et sœurs. Deuxième réaction possible, accepter que Dieu, dans sa providence, par laquelle il fait concourir toute chose pour notre bien, nous a placés, pour un temps peut-être, mais nous a placés, lui, ici, dans cette assemblée, parmi ses frères et sœurs. Et là, c'est la plus juste et la plus saine des réactions. Celle qui va nous permettre de grandir, de croître d'un point de vue spirituel, de jouir de la communion fraternelle. Il y a des richesses dans cette réaction. Ça ne signifie pas qu'il n'y a que des richesses, qu'il n'y aura pas de combat. Mais il y a des richesses et un bienfait réel. À propos de l'expression de l'amour fraternel, que rencontrons-nous dans l'Église ? On rencontre beaucoup de groupes de gens. Alors là, je ne vais pas faire une liste exhaustive, j'ai une petite expérience de la vie d'Église, Mais voilà les sortes de gens que l'on rencontre. Tout d'abord, ceux qui aiment et se donnent sans compter pour leurs frères et sœurs. Et grâce soit rendue à Dieu, il y en a dans l'Église. Plus que l'on ne croit. Des fois, on a l'impression qu'il n'existe pas, parce qu'on ne connaît pas. Mais quand on commence à connaître son Église et ses frères et sœurs, on découvre qu'il y en a. Il y a aussi ceux qui parlent d'amour, qui peuvent même le faire avec effusion, mais qu'ils ne le mettent pas ou si peu en pratique. Et c'est ceux, entre autres, que vise Pierre dans ce passage. Il y a ceux qui ne veulent pas s'engager dans cet amour fraternel. Pourquoi ? Parce qu'ils sont convaincus que les besoins sont tellement grands que s'ils commencent à s'engager, alors ils vont être dépassés par les événements. Alors ils préfèrent rester dans leur coin et ne rien faire. Il y a ceux qui estiment qu'ils ne sont pas formés pour ça et que c'est la tâche exclusive du pasteur. D'ailleurs, n'est-il pas payé pour ça ? Donc, laissons le pasteur et les anciens s'occuper des membres. On priera pour eux qui s'occupent des membres. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais le temps pour leurs frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que l'Église n'est finalement qu'une partie de leur vie. Et puisque l'Église n'est qu'une partie de leur vie, certes, eh bien, ils donnent beaucoup de temps à l'extérieur et beaucoup de temps aux autres qui ne sont pas leurs frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui aiment, qui se donnent, c'est vrai, mais rares sont ceux dont le cœur est vraiment sincère. Rares sont ceux qui montrent dans leur conduite envers leurs frères et sœurs une affection réelle, droite, sans hypocrisie, qui possèdent cet amour profondément enraciné dans leur cœur, d'où il va se répandre dans leurs paroles et dans leurs actes. Les frères et sœurs qui aiment, qui se donnent, sont une réelle grâce de Dieu pour l'Église. Et ce à quoi j'aimerais vous inviter ce matin, nous inviter les uns les autres, c'est que nous prions. C'est que nous supplions Dieu afin qu'il fasse de chacun de nous tous, ces mêmes instruments d'amour entre ses mains, pour le bien de notre Église et pour la gloire de Dieu. J'aimerais vous poser cette question, peut-être vous l'êtes-vous déjà posée depuis que je parle, mais est-ce que vous avez de la peine à aimer vos frères et sœurs dans l'Église ? Bien, si vous répondez oui intérieurement, sachez que vous n'êtes pas les seuls. C'est un mal qui a toujours touché l'Église. Comment le savons-nous ? Parce qu'il y a de multiples exhortations pour l'amour fraternel. C'est pour cette raison-là, c'est parce que c'est difficile, c'est parce que ça va à l'encontre de notre nature propre qui est égoïste et orgueilleuse. Comment faire ? Est-ce qu'il faut attendre pour aimer son frère et sa sœur que le sentiment vienne sur nous et qu'on se lève un matin en se disant « Qu'est-ce que j'aime, Roland ?» Et je vais tout faire aujourd'hui pour Roland, pardonne-moi. C'est un commandement, aimer, de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, et que c'est un commandement, ce n'est pas attendez que vous ayez un sentiment pour votre femme pour lui dire que vous l'aimez, mais aimez, engagez-vous. Comment s'engager ? Eh bien, astreignez-vous peut-être à écrire. Un ou deux petits mots d'encouragement par mois. Faites peut-être un ou deux téléphones par mois pour prendre des nouvelles. Invitez quelqu'un à prendre une tasse de thé. Et évitez peut-être d'inviter toujours les mêmes personnes. Parce qu'il y a des gens avec qui on s'entend bien. Je suis de cette nature-là. Mais invitez peut-être ceux que vous ne connaissez pas. Ceux peut-être que vous auriez de la peine à inviter. Invitez-les. Et lorsque vous les invitez, peut-être ce frère, cette sœur, ce couple, posez des questions, intéressez-vous à lui. Un pasteur me disait cette semaine, on discutait de ce thème-là par téléphone, et il me disait que quand il invite du monde à la maison, ses enfants sont là, et il pose avec sa femme des questions à la personne, ou au couple, ou aux personnes qui sont là, pour savoir qui elles sont. Et il disait, c'est un témoignage de vie. Et pour nous, comme pour nos enfants, c'est un témoignage de la grâce de Dieu. Si c'est difficile, priez avant. Priez pendant avec ce frère et cette sœur ou ses amis. Priez après afin que Dieu prépare votre cœur, prépare le sien ou le leur. Vous savez, j'ai calculé. Dans ces propositions que je fais, très concrètes, cela ne vous prendra peut-être pas plus que 3 heures dans un mois. Vous comprenez bien que ce n'est pas une question de temps, de timing, de calcul, mais c'est pour vous montrer ce que cela représente. Et je suis convaincu que vous serez réellement encouragé et que vous aurez encouragé ses frères et ses sœurs par ce simple mot, ce simple téléphone, ce simple moment ensemble, autour d'un repas, autour d'une tasse de thé. Peut-être par cette visite impromptue. Je sais qu'on est en Suisse et que c'est délicat de sonner chez quelqu'un, et dans le tempérament suisse, on n'aime pas recevoir comme ça. Peut-être qu'on est en jogging. Et pourtant, c'est tellement simple et c'est tellement bienfaisant. Bon, peut-être pas à n'importe quelle heure, bien entendu. Un amour pur. Un amour sincère, tout d'abord, et un amour pur, ensuite. C'est-à-dire un amour qui est exempt de toute souillure, comme les passions impures qui font la guerre à l'âme, ou encore la recherche de son propre intérêt. Cet amour fraternel, les uns pour les autres, ne peut être réellement pur, de toute souillure et de tout égoïsme, que dans la mesure où il a Dieu comme objet principal. Non pas soi-même, mais Dieu. Ceux qui aiment Dieu s'aiment forcément. Pourquoi ? Parce que leur amour principal est en Dieu. Leur cœur se rencontre en lui, qui est le centre, je le répète, de cet amour. Lorsqu'un chrétien attaché à Dieu reconnaît dans celui qu'il côtoie, son frère ou sa sœur, le même amour pour son Père céleste, eh bien, il ne peut que l'aimer et trouver son bonheur dans cet amour fraternel. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent ensemble dans la même direction et que leur cœur est d'abord attaché à Dieu. Et cet amour, étant pur dans sa source, eh bien, il l'est par voie de conséquence dans ses effets. Et c'est ainsi que les rapports mutuels des enfants de Dieu ont dès lors pour but leur avancement dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. C'est cela la communion fraternelle, avant tout, chers frères et sœurs. C'est prendre des bons moments ensemble. C'est peut-être manger un morceau ensemble, c'est peut-être boire une tasse de thé, discuter de choses et d'autres, faire du sport ensemble. Mais c'est aussi désirer ensemble, s'exhorter mutuellement dans la communion fraternelle, dans ce voyage vers le ciel qui est le nôtre, de s'aider mutuellement à marcher dans la voie de la perfection. Voilà réellement l'amour d'un cœur pur. Il commence et il finit en Dieu. Un amour sincère, je disais. Un amour pur, enfin je disais, Pierre nous dit. Et un amour fervent. L'amour fraternel doit être fervent dans ce sens que le chrétien doit aimer son frère, sa sœur, avec une grande affection. Et non pas d'un cœur froid et sans vie. La grande affection que nous devons avoir dans notre cœur, les uns à l'égard des autres, doit être comme un feu qui consume notre égoïsme. Parce que celui-ci est contraire au véritable amour. Mais il nous est si naturel, cet égoïsme. Cette affection fervente, les uns pour les autres, doit nous porter à quoi ? À sympathiser, je l'ai dit et je le répète, avec les douleurs, les épreuves des frères et sœurs. Et nous efforcer, nous conduire à ce que nous nous efforcions à soulager ces souffrances. Cette affection fervente doit nous porter à supporter les infirmités. Et nous en avons parmi nous qui sont infirmes d'une façon ou d'une autre, qui souffrent dans leur corps. À supporter les défauts. Combien j'ai de la peine, parfois, à supporter les défauts de mes frères et sœurs. À les relever dans leur chute. Mais aussi à les avertir, à les reprendre lorsque cela s'avère nécessaire. Parce que ça, c'est de l'amour aussi. Reprendre un frère ou une sœur, peut-être sévèrement, quand on voit que décidément, il va dans une voie de garage, mais toujours avec amour. Mais aussi, et enfin, à se réjouir des dons, des grâces et des joies qu'ils reçoivent. Est-ce que nous n'avons pas parfois cette tendance à jalouser telle ou telle personne qui a plus de dons, plus de capacités ? J'étais à Paris il y a quelques semaines de cela, vous le savez, et j'ai entendu un serviteur de Dieu qui a marqué ma vie, quand j'étais en Alsace, dire combien, alors qu'il a été un fondateur de mission, dire combien il jalousait certains frères qui étaient dans la mission parce qu'ils étaient plus doués que lui. Et il devait confesser cette jalousie alors que ses dons étaient une pure grâce de Dieu vis-à-vis de ses frères pour le bien du royaume de Dieu. Vous avez de la peine à aimer vos frères et sœurs, mais priez, demandez, suppliez Dieu qu'il vous accorde cet amour. S'il aime ses frères et sœurs qui sont à vos côtés, alors demandez-lui qu'il vous accorde cet amour fervent, bouillant, qui brûlera votre égoïsme. Chers frères et sœurs, souvenons-nous ce matin des liens qui sont les nôtres. Nous avons le même Père. Je dois parfois le dire à mes enfants, mais dans un sens charnel. Nous avons le même Esprit qui est en chacun de nous. Le même Sauveur qui est le chef de notre fraternité. L'Écriture nous dit qu'il est le premier de plusieurs frères. Ces raisons, ces liens qui sont les nôtres, bien plus forts même que les liens charnels avec nos parents et nos frères et sœurs, ne devraient-ils pas nous conduire à un dévouement plus grand les uns envers les autres? Permettez-moi cette illustration. Lorsqu'une épine s'enfonce dans un pied, comment réagit le corps? Il y a un cri qui est poussé. Le dos se courbe. La tête se baisse. Les yeux regardent. Et les mains vont s'efforcer d'enlever l'épine et de soulager le pied endolori. Eh bien, il en est de même dans l'Église. Tous les membres partagent le bien ou le mal les uns des autres. Alors pourquoi est-ce qu'il devrait en être différemment du corps spirituel et vivant qu'est notre Église? Est-ce que l'union et l'amour entre nous ne devraient-ils pas être plus solides et plus intimes? Alors, permettez-moi une troisième question. Qu'allez-vous faire de ce que je suis en train de vous dire ce matin? Et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Pierre qui nous le dit. Qu'allez-vous faire? Sortir en vous disant « c'était beau et c'était juste » ou alors peut-être « il est gonflé ». Pour qui se prend-il? C'était moi qui le visais. Est-ce que nous allons continuer à prier pour des conversions ou pour de nouvelles personnes dans notre Église, si tant est que nous le fassions? Alors peut-être que cela fait des années que vous côtoyez cette assemblée et que vous ne savez décidément toujours pas mais quelle est cette personne qui est à 5 ou 6 mètres de vous. Vous êtes frères et sœurs par la même nouvelle naissance. Vous êtes destinés au même héritage. J'aimerais vous exhorter, nous exhorter ce matin à ce qu'il n'y ait entre nous ni dispute, ni arrogance, ni jugement, ni surtout dédain. Mais qu'au contraire, chacun de nous se réjouisse du bonheur de ses frères et sœurs. Et y travaille avec acharnement. J'aimerais nous exhorter les uns les autres à savourer déjà ici, sur cette terre, cet amour, les uns pour les autres, qui ne finira jamais, puisqu'il a commencé ici et il continuera dans l'éternité. Rejeter toute méchanceté. C'est le deuxième point. Après nous avoir exhortés à nous revêtir de cet amour fraternel, les uns pour les autres, eh bien l'apôtre nous invite ensuite, et logiquement, à lui laisser la place dont il a besoin. Comment? En nous dépouillant de ce qui pourrait le gêner. L'amour pour nos frères et sœurs a besoin de place. Alors éliminons tout ce qui est en trop et tout ce qui ne devrait pas être présent. Et c'est ainsi que Pierre nous exhorte à rejeter sans pitié la méchanceté, la fraude, l'hypocrisie, l'envie et la médisance. Tous ces vices qui étaient les nôtres autrefois. Tous ces vices qui continuent de caractériser les enfants de Satan qui portent son image. Mais à contrario, c'est l'Esprit de Dieu qui devrait habiter en nous. Si nous nous réclamons de ses enfants, c'est un esprit de vérité, de douceur, d'amour, de joie, de paix, de patience et de fidélité. Et cet esprit-là, qui est le nôtre, si nous sommes ses enfants, et tous les fruits qui sont les siens, eh bien, sont communiqués aux chrétiens dès sa conversion. Si tel est le cas, est-ce que ce ne serait pas la plus grande des malhonnêtetés et des folies pour celui qui se dit croyant que de prétendre porter le nom de Christ, quand on se dit chrétien, on porte le nom de Christ, tout en conservant jalousement dans son cœur la haine, l'envie, la médisance et l'hypocrisie, alors que la marque à laquelle Jésus a voulu qu'on reconnaisse le chrétien, c'est l'amour. Chers amis, cette méchanceté dont nous parle Pierre, au verset 1 de ce chapitre 2, qui souhaite aux autres du mal, et l'envie à laquelle il fait référence, qui s'irrite du bien dont jouissent ceux que nous côtoyons, sont deux rameaux qui poussent sur le même tronc, celui de l'égoïsme. Et le fruit de la méchanceté et de l'envie, c'est la médisance dont il est question dans ce verset. La médisance, nous dit Jacques, souille tout le corps. Jacques en parle comme étant le feu de la géhenne, c'est-à-dire le feu de l'enfer. Dans ce sens, nous devons comprendre que la médisance enflamme tout ce qu'elle touche, non pas dans un sens de purification, comme parfois dans l'Écriture il est question de purification par le feu, mais dans un sens de destruction. C'est ça la médisance. Par la médisance, les bonnes actions du prochain sont censurées. On ne veut surtout pas les voir. Elles nous dérangent profondément. Par contre, ces fautes sont amplifiées, déformées, voire étalées. Ces vertus sont dénigrées. Toute sa vie est soumise à une sorte de malveillante interprétation. L'amour chrétien, au contraire, c'est découvrir et relever les bonnes actions et les qualités de l'autre. Et s'il était présent, s'il était plus présent dans notre société, peut-être dans l'Église en général, eh bien il épargnerait bien des brûlures, bien des déchirements douloureux aux âmes qui se côtoient. Je suis convaincu que par expérience, vous et moi devons reconnaître le côté insupportable de devoir entendre dans le monde tout le bruit que font les hommes par leur médisance les uns sur les autres. Mon père, que j'avais hier au téléphone, avec qui je discutais aussi de ce texte, qui est médecin, qui travaille, me disait, mais c'est exactement ça. Le temps passé, il travaille, il aide dans un cabinet médical, le temps passé par les secrétaires, les infirmières et les médecins pour critiquer, médire sur celui-ci, celui-ci ou celui-là. Et ce qui donne à ce vice de la médisance le caractère frauduleux dont parle Pierre, quand il parle de fraude, c'est finalement que chacun cherche à établir sa propre réputation sur les ruines de celle de ses semblables. Mais il a travaillé à faire de la réputation de son semblable une véritable ruine. Et c'est le côté frauduleux. Je vais devenir quelqu'un en démolissant l'autre et en me mettant sur un piédestal sur les ruines de la réputation de mon prochain. Comment pourrait-il en être de même dans l'Église? Alors je vous repose une question ce matin. Est-ce que vous êtes caractérisé par la médisance? Est-ce que vous avez à vous battre contre ce péché? Si tel est le cas, eh bien je vous en conjure, priez, suppliez Dieu qu'il vous en délivre et combattez-le avec acharnement. Avec acharnement. Comme on doit combattre le péché et le mettre à mort. Rejetez-le avec l'aide de Dieu, afin de laisser la place, comme nous y exhorte Pierre, à l'amour chrétien. Mais par-dessus tout, ne tentez pas de dissimuler ce péché de la médisance derrière des formes qui peuvent peut-être paraître moins grossières, un peu plus attrayantes. Parce que c'est parfois ce qui se passe. Un petit peu comme quand on distille des ragots sur telle ou telle personne, en prenant un air profondément accablé et en disant « mais c'est pour la prière ». Agir ainsi consiste à ajouter un péché à un autre péché, qui est plus odieux encore, celui de l'hypocrisie. Et nous ne devons pas nous y tromper, chers frères et sœurs. Dieu voit. Celui qui sonde les cœurs le voit, et un jour il permettra que le masque soit arraché. Peut-être ici-bas, et très certainement dans le ciel, devant lui, devant les hommes et devant les anges. Et alors ce sera un misérable avantage que d'avoir été toute sa vie peut-être applaudi des hommes, regardé avec respect, pour finir confondu et condamné à cause de ce péché. Alors ce matin, ne nous leurrons pas. Ce matin, ne tournons pas nos regards vers un tel ou un tel, peut-être, en entendant cela. Parce que si l'apôtre nous exhorte à nous dépouiller de toute méchanceté, de toute fraude, de l'hypocrisie, de l'envie et de la médisance, eh bien c'est qu'il suppose que nous en sommes tous revêtus. Parce que notre cœur par nature les renferme tous. Alors c'est vrai peut-être en germe pour certains et plus développé pour d'autres, mais tous nous les avons. L'apôtre désigne tantôt les uns, tantôt les autres comme nous appartenant en propre. Mais ils sont inséparables. Ils forment un seul vêtement dont nous sommes exhortés à nous dévêtir, le vieil homme. Et ici, Pierre exige que nous le rejetions comme la preuve indispensable de notre nouvelle naissance. Aussi bien que pour rendre possible notre croissance spirituelle. Alors que Dieu nous fasse cette grâce, je dis bien nous, parce que inutile de vous dire que je me mets aussi dans le lot, bien entendu. Que Dieu nous fasse donc grâce, nous souvenant que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Je vais conclure. Je conclus en tenant compte des versets 2 et 3. Après nous avoir donc exhortés à l'amour fraternel, Pierre reprend, vous le voyez, l'idée de la nouvelle naissance, qu'il avait déjà traitée dans le chapitre 1 et tout à l'heure. Il reprend cette idée de la nouvelle naissance en nous présentant les premiers symptômes de celle-ci dans l'âme. Quels sont les premiers symptômes de la nouvelle naissance dans l'âme? Eh bien, Pierre nous apprend que comme un petit enfant se détourne naturellement des aliments dont son palais ne peut supporter le goût, eh bien, le pécheur, nouvellement né en Jésus-Christ, rejette naturellement les vices dont nous venons de parler. Il ne les supporte pas. Il y a chez le nouveau converti comme une répulsion quasi instinctive pour tout ce qui est directement et manifestement contraire à la sincérité et à la vérité, et surtout à l'amour. Et nous savons tous, chers frères et sœurs, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de progrès dans la foi pour être vrai et pour aimer. Et puis, par rapport à ce jeune converti, comme un petit enfant qui vient de naître, que fait-il? Il recherche le lait de la parole. Il fait de la Bible la nourriture de son âme. Et petit à petit, il s'éloigne ainsi progressivement, naturellement, du vice, de la méchanceté et de tous les enseignements humains qui lui paraissent tout à coup opposés aux saintes doctrines qu'il découvre dans l'Écriture sainte. Et c'est ainsi que, se nourrissant de cette parole, il se met à croître, à faire des progrès, en sagesse, en grâce, après avoir goûté, comme Pierre nous le dit, combien le Seigneur est bon. Et si peut-être d'abord il a désiré en tant qu'enfant dans la foi le lait de la parole parce qu'il avait faim, et c'est ce qui caractérise souvent les jeunes convertis, eh bien il va retourner à ce lait après. Pourquoi? Parce qu'il le trouve agréable et parce qu'il sait toutes les vertus de cette parole pour sa vie avec Dieu, pour sa communion avec Dieu. C'est cette sainte et divine parole, chers frères et sœurs, qu'il nous est si indispensable de continuer, ou peut-être de réapprendre à écouter, à recevoir, à aimer, à estimer et à obéir. Serrons-la au fond de notre cœur, comme notre plus précieux trésor ici-bas. Je dis bien notre plus précieux trésor, celui par lequel Dieu nous transforme à l'image de son Fils pour sa seule gloire. C'est par cette parole que nous apprendrons à aimer nos frères et sœurs. C'est par cette parole que nous apprendrons à rejeter tout péché dans ce dont nous venons de parler ce matin, qui nous environne si facilement. Revenons ou continuons de nous nourrir de ce lait non frelaté de la parole, de cette parole qui est différente de l'herbe qui sèche et de la fleur qui tombe, de cette parole du Seigneur qui demeure éternellement, éternellement. Que le Seigneur soit béni pour sa parole et qu'il nous fasse grâce dans notre vie chrétienne. Amen.